Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Oui, je fais ça ici, mon ami.
Yes.
Voilà, c'est fait. Pascal, ça va toujours?
Ça va très bien.
T'es toujours
très
heureuse?
Beau. Ben oui, toi?
On est bien.
On est bien. Oui, on est bien.
On a pris un bain de soleil hier.
Et encore aujourd'hui, avant la pluie de demain.
Ben oui, il faut se gâter parce que sinon, je regarde la météo, je vous en parlais tantôt, le soleil devrait revenir seulement dimanche.
Je sais, c'est ça qui est très printanier hein, pour les prochains jours.
Oui, voilà. Passons donc à un prochain sujet. Sous la plume de Véronique Prince de Radio-Canada, on peut apprendre que les médecins de famille demandent au gouvernement Legault de renoncer à un projet de règlement qui pourrait limiter davantage l'accès aux soins de santé. Après avoir envoyé une mise en demeure au ministre de la Santé, Christian Dubé, bien, il y a quelques semaines, leur fédération espère un revirement de la situation avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. On dit que les médecins craignent que le règlement les empêche d'accepter spontanément de prendre en charge une personne qui se présente à leur bureau par le service sans rendez-vous. Ça inquiète plusieurs personnes, puis les médecins veulent essayer de faire changer les choses. On a le goût d'en savoir plus. On a le plaisir de jaser avec le docteur Marc-André Amiot, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Monsieur Amiot, bon midi.
Bonjour.
On a l'impression qu'on s'en sortira jamais. On a-tu le pire système de la santé de l'histoire de l'humanité?
Non, on n'a pas le pire système de santé, mais on a quand même des enjeux importants en termes de pénurie de médecins de famille.
Oui.
Et on a essayé dans les 20 derniers mois d'augmenter l'accessibilité. C'est pas parfait, là, mais on a quand même pris 1 million de Québécois en inscription collective. Et de ces 1 million de Québécois-là, il y en a 120 000 qui ont été inscrits individuels. Et là, ça va être difficile avec les règlements qui ont été mis en place d'inscrire individuellement ces patients-là. Ça va demander des exceptions. Donc, le patient là, qui est en face de vous, là, ce que un médecin soulevait, une mère, deux enfants, vient avec son troisième enfant, vous suivez toute la famille, docteur, le troisième enfant, pouvez-vous le prendre en charge comme toute la famille?
Techniquement, c'est possible.
Ben non, mais oui, là, vous faites partie des exceptions, attendez un petit peu, on va vérifier avec le coordonnateur du guichet, est-ce qu'on va avoir un formulaire à remplir, on va envoyer le formulaire par fax, c'est juste ça, là. Nous, qu'on dit, ça complexifie énormément la prise en charge des patients. Puis les médecins de famille, là, je vais être bien clair avec vous, ils s'occupent des patients malades. 43 % de leur clientèle, ce sont des patients vulnérables et ils représentent une visite sur deux là, dans les cliniques.
Ah, monsieur Amiot, vous me convaincrez pas là-dessus. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous depuis le départ. Ce que je me pose comme question, c'est comment le ministre de la Santé peut émettre des recommandations. Puis de l'autre côté, ben, la Fédération des médecins omnipraticiens dit « Non, il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. » Pourquoi vous ne vous jasez pas régulièrement à chaque jour pour vous entendre sur les façons de procéder qui pourraient améliorer tant la vie du patient que la qualité de travail des médecins, puis que le gouvernement pourrait peut-être bien paraître aussi dans l'histoire?
Vous avez tellement raison. Puis nous, là, vous faites référence à la mise en demeure. C'est quoi la mise en demeure? La mise en demeure, c'est « Venez vous asseoir avec nous. On est là pour trouver des solutions. » Puis ça marche. On l'a démontré dans les 20 derniers mois. Là. C'est un travail de collaboration qui a permis de prendre en charge 1 million de Québécois, prendre en charge collectivement 1 million de Québécois. Pourquoi on ne fait pas la même chose? Là. Le 13 000 patients auxquels il faisait référence d'abord, il a reconnu que c'était plus 13 000. Là. Il a reconnu ça dans l'étude des crédits à l'Assemblée nationale. Puis nous, on a écrit au sous-ministre, on lui a dit, là, bon, ça semble être un enjeu, les 13 000 patients, bon, c'est plus 13 000. Nous, on veut former un comité, puis on est prêts à toutes les prendre en charge, envoyez-nous-les. On est prêts à mettre un comité rapidement pour les prendre en charge, s'en occuper. La réponse du ministère, elle a été la réponse du ministère, écrite. On a ça par écrit. Non, on n'ira pas plus loin de ce côté-là.
Quoi? OK. Vous proposiez pour faire le travail sans que nécessairement vous demandiez et ordonniez de meilleur. Vous ne pouvez pas le faire, que ce soit appliqué, mais vous avez dit, laissez-nous former ce comité-là, on va en faire une référence, on va jaser entre nous, puis vous proposer des choses, vous déciderez ce que vous allez appliquer. C'est ce qu'on comprend, puis ça vous a été refusé. J'ai une petite parenthèse à faire avec vous, parce que j'ai l'impression que le rôle de médecin de famille a changé changé au détriment peut-être des Québécois à travers le temps, puis j'aimerais ça avoir votre avis d'expert là-dessus. Médecin de famille, ça le dit. Puis là, tantôt, on parlait du fait que ben, on pouvait greffer la dernière personne du foyer familial dans l'enveloppe peut-être de patient du dit médecin. Mais ça faisait en sorte que dans le temps, parce que maintenant, on va dire à l'époque, quand on suivait une famille complète, on suivait aussi tout ce qui était maladie, qui était dans le sang, dans les gènes de cette famille-là. Par exemple, il y avait des gens qui étaient décédés du cancer du côlon, de patient en patient de la même famille. On était capable de faire des suivis adéquats pour travailler en amont et pas juste quand le cancer est arrivé chez une personne parce qu'on connaissait les antécédents familiaux. Il y avait un beau rôle de ce côté-là aussi. J'ai l'impression que vous ne pouvez plus vraiment jouer peut-être dans ce diagnostic-là ou dans ces préventions-là.
Bien, on joue, puis on a encore un rôle. Mais la médecine a évolué, et compte tenu de la pénurie de médecins de famille, qu'on évalue autour de 1500 à 2000 médecins de famille au Québec, il faut se concentrer sur les pathologies ou les problèmes qui ne peuvent pas être réglés par d'autres professionnels. Et toute la notion du dépistage, le dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer du côlon, tout ça, là, on est en train de faire des programmes nationaux. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, vous allez recevoir une lettre, voici la procédure, allez à la pharmacie, vous procurez un petit sachet, vous procédez au test de dépistage. Pour la femme, ben, c'est vous recevez une lettre, vous avez une mammographie, tel endroit, telle heure, etc. Et ça, c'est très bien d'implanter ce type de dépistage-là. Mais il reste encore, comme vous faites référence, de la place à un suivi comme médecin de famille de traiter toute la famille. Parce que parfois, là, c'est pas seulement des problèmes physiques, c'est des problèmes relationnels, sociaux, qui nous permettent de mieux traiter nos patients. Et ça, c'est de plus en plus difficile parce que c'est pas nous qui décidons le guichet, là. C'est pas nous qui décidons d'envoyer les patients c'est pas les médecins de famille qui font une sélection de patients, c'est eux qui nous les envoient, les patients. Donc, pourquoi ils nous les ont pas envoyés, ceux qu'ils considéraient les plus malades? C'est ça qui est difficile à comprendre. L'autre élément, moi, j'ai eu des commentaires de familles et de docteurs qui disent, ben, il y a une famille, là, il y a un enfant qui est envoyé à une clinique, puis l'autre qui est envoyé à l'autre clinique. Les parents appellent, pouvez-vous les mettre tous à la même clinique, au moins? Non, on peut pas faire ça. Donc, c'est ça qui est parfois frustrant, là, cette lourdeur, ces technicalités administratives-là. Les médecins de famille, ils veulent donner des soins, ils veulent voir des patients, mais ils sont pris dans des dédales administratives de paperasse, puis ça, là, ça l'augmente, là. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Ça, je le concède, là, à CNESST, avec la SAAQ. Il y a eu des efforts, mais d'un autre côté, on en rajoute. On en rajoute avec les règlements. Ça va être possible de prendre un patient selon certaines exceptions après avoir rempli un formulaire pour envoyer au coordonnateur qui, lui, va autoriser que vous pouvez le prendre ou peut-être qu'il n'autorisera pas que vous pouvez le prendre. Il va vous proposer un autre patient. Voyez, là, laissons ça au jugement professionnel des médecins. C'est justement pour ça qu'ils sont formés. Savoir qui ils prennent, qui ils prennent pas en charge en fonction de leur maladie, de leurs problématiques spécifiques.
Docteur Amiot, vous êtes président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Christian Dubé, quand il émet ce type de règlement-là, il consulte qui? T'sais, on voit la façon dont un gestionnaire est, à savoir si c'est un gestionnaire exceptionnel ou si c'est un piètre gestionnaire, à la façon dont il s'entoure. Qui le conseille concernant le merveilleux monde de la santé si ce n'est pas des médecins omnipraticiens?
Bien, justement, c'est ça, on le sait pas, là, faudrait lui demander à lui, mais ça peut parfois paraître bien sur papier, mais moi, je dis toujours, il faut que ça passe le test de la réalité. Et qui connaît le mieux la réalité que des médecins de famille qui travaillent sur le terrain?
Directement sur le plancher, oui. Donc vous me confirmez que vous n'êtes jamais consulté par le ministre de la Santé?
Bien, on est consulté parfois, mais encore faut-il qu'on prenne en considération ce qu'on lui dit.
Il ne prend pas en considération ce que vous lui dites.
Bien, nous, on lui dit, là, le règlement, ça risque d'avoir l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Puis, je lui concède qu'il souhaite améliorer l'accès, puis nous aussi, on veut améliorer l'accès. Mais son projet de règlement, on pense que ça va avoir, que ça va avoir l'effet inverse. L'autre volet des règlements, c'est les données. Pourquoi mettre la responsabilité des données sur les épaules des médecins? Les médecins qui travaillent en GMS déposent déjà tout leur horaire sur le système de rendez-vous du ministère. Pourquoi demander aux médecins les rendre responsables d'envoyer une fois par semaine la liste pour le mois qui vient? Puis, on a environ 200 à 300 médecins au Québec. Il y a 25 % des médecins de famille qui ont plus de 60 ans. On a 200 à 300 qui n'utilisent pas de dossier médical électronique, qui utilisent encore des dossiers papier, mais qui rendent des services. Quand on va les obliger, ces médecins-là, à déposer leur horaire, puis qu'on va leur laisser un délai de 18 mois. Ça, c'est le délai qui est écrit dans la loi. On va leur laisser un délai de 18 mois. Dans 18 mois, là, ils ne seront pas informatisés, ces docteurs-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire plutôt que de s'informatiser? S'ils ne le sont pas informatisés jusqu'à maintenant, ils vont quitter la profession. Combien ils suivent de patients? On sait qu'ils suivent entre 200 et 250 000 patients. C'est 200 à 250 000 patients supplémentaires qu'on va laisser en plan. Puis ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on dit, discuter avec nous, donner des exceptions pour ces médecins-là, donner des exceptions, demander pas aux médecins de faire le travail administratif. Ils le font déjà, ils déposent les horaires sur le système de rendez-vous. Allez vérifier directement sur le système de rendez-vous. Vous avez accès à ces données-là. Donc, c'est ça qu'on comprend pas, qui est difficile à comprendre. On comprend le but principal et on partage ce but-là d'améliorer l'accessibilité, d'améliorer les données de gestion. On a toujours dit qu'on était d'accord avec des données. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Mais il faut trouver une façon de faire qui ne met pas la charge supplémentaire sur les épaules des médecins de famille. On a besoin de discuter ensemble.
Les omnipraticiens passent combien de temps là, devant leur ordinateur à remplir de la paperasse par semaine environ?
Bien, paperasse, laboratoire, c'est près de 10 heures par semaine. Et là, vous allez me dire, mais ça n'a pas de bon sens. On ne pourra jamais ramener ça à zéro parce que là-dedans, il y a du travail qui est essentiel. Quand je vous demande des prises de sang, là, ben tout ça, ça rentre dans mon dossier médical électronique. Et le soir, la fin de semaine, quand les enfants sont couchés, le dimanche matin, je prends mon ordinateur, puis là, je regarde mes laboratoires. Puis c'est pas juste un ou deux, là. C'est plusieurs laboratoires. Et ça, on pourra pas ramener ça à zéro. Mais peut-être que avec des logiciels automatique. Quand les laboratoires sont normaux, il y a une note qui est envoyée. Peut-être que il y a des médecins qui travaillent avec des infirmières dans un ratio d'un pour un, qui s'embauchent du personnel infirmier. L'infirmière fait un premier triage, informe les patients. Quand il y a des ajustements à faire, quand il y a des laboratoires franchement anormales, ben là, il y a un suivi. Donc, c'est le genre de choses qu'on souhaite mettre sur pied pour optimiser le travail des médecins de famille. Mais c'est clair, on l'amènera jamais à zéro, ce travail-là, mais médico-administratif. Mais il faut essayer de le diminuer plus qu'il ne l'est actuellement et pas d'en rajouter.
Docteur Amiot, je ne veux pas faire trop de politique avec vous, mais en même temps, on n'a pas le choix. Vous êtes le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Depuis que Christian Dubé est en place, est-ce qu'il a fait de bonnes choses? Qu'est-ce qui a changé dans le merveilleux monde de la santé, Christian Dubé, qui fait en sorte que vous puissiez lui rendre hommage aujourd'hui?
Bien, quand je parlais de la pénurie de médecins de famille, il a augmenté le nombre d'étudiants en médecine. Là, il y a des quotas, des plafonds d'admission en première année de médecine dans les facultés de médecine au Québec. Il a augmenté le nombre d'étudiants de façon substantielle. Et ça, là, je dois saluer. C'est très positif. Mais là, on doit aller plus loin. On doit aller une deuxième étape. Il faut que ces étudiants-là choisissent la médecine familiale. Parce que depuis 12 ans, c'est 600 postes de formation en médecine familiale qui n'ont pas été comblés dans les universités.
Pourquoi les jeunes ne se dirigent pas vers cette spécialité-là? C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Puis même autour de moi, pour avoir des amis qui sont étudiants en médecine, ça fait souvent partie du top 2 ou du top 3 dans leur choix, mais ça finit jamais par s'avérer comme étant le top 1 puis le choix final.
Mm-hmm. D'abord, probablement le climat ambiant. Deuxièmement, la lourdeur de la tâche, la lourdeur administrative, la charge qu'on met sur les épaules des médecins de famille. On voulait leur faire porter tous les maux du système. L'entièreté de l'accès à la première ligne reposait sur les médecins de famille. Nous, on a dit, là, ça n'a plus de bon sens. Il faut répartir les besoins de la population sur d'autres professionnels. Bon, ils sont où les autres professionnels? Ça, on a besoin davantage dans nos GMF pour aider les médecins à faire leur travail, à améliorer l'accès pour la population. Donc ça, les contraintes, on met de plus en plus de contraintes à la pratique de la médecine familiale. Contraintes d'AMP, d'activité médicale particulière. Vous ne pourrez pas pratiquer la médecine que vous souhaitez. Il va falloir faire ceci, cela. Vous ne pourrez pas travailler à l'endroit où vous souhaitez. Vous allez devoir sélectionner une ou deux régions. Vous n'êtes pas sûr d'aller travailler là. Il y en a qui réussissent à travailler dans la région qu'ils souhaitent, c'est clair. Mais il y a toujours une insécurité. Donc, les différentes contraintes, le climat, la pression, c'est difficile d'être médecin de famille dans le contexte actuel. On doit être au courant de plusieurs pathologies. On doit être disponible pour les patients. Puis, on doit vivre avec les contraintes du système. Donc, je vous vois, vous vous êtes blessé au genou, vous êtes jeune. Je pense que vous avez une blessure ligamentaire, une rupture d'un ligament croisé du genou. Je vous demande une résonance magnétique. Combien ça va prendre de temps avant d'avoir la résonance magnétique? Je vais vous voir combien de temps avant d'avoir la résonance magnétique. Je vais vous signer combien d'arrêts de travail. Je vais remplir combien de formulaires en attendant votre résonance magnétique. Une fois que la résonance magnétique est faite, oups, effectivement, ça confirme. Là, ça vous prendrait une chirurgie. Il faut que je vous réfère à un spécialiste. Combien de temps ça va prendre pour voir le spécialiste? Je vais vous voir combien de temps. Voyez, si le patient il avait eu sa résonance magnétique deux semaines après, j'ai le diagnostic. Vous avez besoin de voir un orthopédiste? Je vous demande une consultation en orthopédie. Vous le voyez deux semaines plus tard. Vous avez besoin d'une chirurgie après? Vous êtes opéré dans un délai raisonnable. Il n'y a pas de consultation inefficiente là-dedans. Mais les médecins de famille sont pris à faire des consultations, des arrêts de travail pour des problématiques du réseau d'accessibilité au plateau technique, d'accessibilité aux spécialistes, d'accessibilité aux chirurgies. Puis en plus, si vous avez des douleurs, bien vous allez voir votre médecin de famille qui va vous faire une infiltration, qui va vous prescrire des médicaments pour la douleur. Vous voyez, c'est toute cette lourdeur-là qui n'est pas nécessairement efficiente là, en termes d'utilisation des compétences du médecin de famille.
Est-ce que c'est aussi lourd quand on est médecin omnipraticien, mais au privé, quand on est désaffilié?
Clairement pas, parce que là, on est un peu indépendant du réseau. Est-ce que c'est aussi lourd? Possiblement, c'est l'hypothèse que je fais.
On n'aurait pas quelque chose à apprendre, docteur Amiot, du privé?
Certainement, mais nous, ce qu'on dit, là, effectivement, oui, il faut apprendre du privé, mais nous, ce qu'on dit, il faut améliorer le réseau actuel. Il faut améliorer les conditions de pratique, les conditions de travail pour améliorer l'accès à la population. Parce qu'on est bien conscient là, que la population a des difficultés d'accès. Puis on est très sensible à ça. Là. Puis les docteurs travaillent fort pour améliorer cet accès-là. La preuve, quand on collabore dans les 20 derniers mois, on a pris collectivement 1 million de patients qui passent par le guichet d'accès à la première ligne, qui sont triés par une infirmière qui évalue leurs besoins et là dit, peut-être que le pharmacien du coin peut régler votre problème. Allez voir votre pharmacien. S'il ne peut pas régler votre problème, rappelez-nous, vous avez besoin d'un médecin, on va vous donner un rendez-vous. Les médecins de famille ont rendu disponible pour la GAP 1 million de rendez-vous qu'ils mettent à la disposition du GAP des établissements pour leur dire, faites voir par d'autres professionnels ce qui peut être vu par un physiothérapeute, une infirmière, un TS, puis réservez-nous ce que vous jugez qui nécessite l'expertise du médecin de famille. Comme ça, on a réussi à optimiser le service.
Docteur Amiot, c'est une légende urbaine, ça, que des gens qui ont des médecins de famille puis ils vont pas à chaque année peuvent perdre leur médecin de famille en raison du fait qu'ils peuvent pas nécessairement être, ils sont pas très payants pour le médecin. C'est une légende
non,
urbaine?
Non. C'est ce concept-là, peut-être qu'il a déjà existé, là, mais il n'existe plus. C'est pas du tout ça.
Ça a déjà existé?
Ben oui.
Ben, on a déjà entendu ça par le passé, là. Et c'était pas généralisé, c'est pas ça que je dis, là. Après 5 ans, si t'as pas vu ton médecin, ton dossier est fermé, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est plus le cas, là. Ça n'existe plus, ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que la médecine, c'est modifié. Rappelez-vous, avant, on prônait un examen annuel, hein. Un examen, ça c'était bien important, là, oui. L'examen médical périodique puis l'examen. Ça n'existe plus, ça, cette affaire-là.
On m'avait dit, docteur Amiot, qu'à 40-45 ans, il fallait que je pense au test de la prostate, là, puis là, je me cherche un médecin de famille.
Oui, mais tu sais, tous ces tests de dépistage-là, là, puis c'est. Je vous dirais, vous soulevez un enjeu, mais le dépistage systématique du cancer de la prostate, à lui seul, c'est un enjeu là où les scientifiques ne s'entendent pas nécessairement sur la plus-value du dépistage systématique.
Vu le stress que ça occasionne chez le patient?
Exact. Ben, les faux positifs, c'est-à-dire, whoops, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Oh, là, effectivement, un stress, j'ai-tu quelque chose, j'ai-tu un cancer, etc. Pour finalement arriver que, whoops, non, ça, c'est ce qu'on appelle un faux positif.
Mais dans le pourcentage, là, est-ce qu'on est capable de plus diagnostiquer que pas? Puis ma sous-question à ça, c'est que là, on parle des hommes, mais pour les femmes, le test annuel, là, le test en gynécologie que certains médecins de famille font, je veux dire, il est quand même pas...
Oui, ça, c'est pas remis en question, là, pas du tout. Puis d'ailleurs, programme de dépistage du cancer du sein, ça, c'est pas remis en question. Programme de dépistage du cancer du côlon là, qui est en train d'être généralisé, ça non plus, c'est pas remis en question. Mais il y a d'autres tests de dépistage qui ne sont pas nécessairement à aussi grande valeur ajoutée que dépistage du cancer du côlon, cancer du sein. PAP test, c'est pas remis en question. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'un médecin pour faire un PAP test? Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a différentes régions qui ont implanté des trajectoires. Donc, une femme qui n'a pas eu de pap test depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans, appelle au GAP et dit, ben moi, j'ai plus de médecin de famille depuis 10 ans, j'ai pas eu de pap test. Pouvez-vous me référer à un médecin de famille? Oh, à Laval, par exemple, il y a une trajectoire où ils ont développé avec le CLSC des infirmières qui font cet examen-là, qui font le pap test. Et s'il y a quelque chose de pas normal, soit à l'examen, soit ces patientes-là sont référées à un médecin. Donc, ce que je veux dire, c'est que la médecine s'est modifiée et il y a beaucoup de choses qui sont faites par d'autres professionnels qui peuvent être faits par d'autres professionnels. Et nous, on est d'accord avec ça. Parce que la pénurie de médecins de famille fait en sorte qu'on ne pourra pas offrir le service comme on l'offrait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut réserver aux médecins de famille ce qui nécessite l'expertise du médecin de famille. Ce qu'une infirmière ne peut pas régler, ce qu'un pharmacien, un physiothérapeute, un dentiste, un optométriste ne peut pas régler.
Bon Dieu, que votre job doit être compliqué des fois. Vous devez avoir des cheveux gris.
Parfois. Mais vous savez, j'ai exercé l'une des plus belles professions dont je suis profondément fier.
Ben oui.
Et mon ascension à la présidence de la FMOQ, moi, je souhaite revaloriser cette profession-là pour que les étudiants aient le goût de choisir l'une des plus belles professions.
Ben, vous êtes un bon représentant. Merci beaucoup, M. Amiot.
Ça me fait plaisir.
Merci, Dr. Marc-André Amiot, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Très sympathique, monsieur, s'explique, il s'exprime très bien. Puis moi, c'est souvent ce qui m'inquiète. T'sais. Quand je me rends compte que le ministre de la Santé ne semble pas consulter des gars comme Dr. Amiot pour prendre des décisions...
Ouais. Sans dire appliquer absolument tout ce
qu'ils
disent.
Leur travail,
parce que, tu sais, au niveau, mettons, politique, toi, t'as tellement d'enjeux, de budget, de ci, de ça. T'as plein de t'as les infirmières auxiliaires, t'as plein de monde. Mais si tu ne prends pas en considération, mettons, des cellules, comme M. Amiot nous expliquait, qui voulait se créer, soit une gang d'experts, qui voulait se rassembler, discuter, proposer. Si même ça, ça ne t'intéresse pas, là, il est peut-être là le problème aussi. C'est parce que, mon Dieu, ça aurait des coûts, il faudrait les payer, puis on n'a pas le budget pour, mais en même temps, c'est eux qui sont sur le plancher des vaches pour la majorité. Je ne sais pas si M. Amiot est encore, de ce que je comprends, non, mais il a été pendant de nombreuses années. Il est capable aussi de parler avec des gens autour de sa table de grand sage.
Puis on perd énormément de médecins qui pourraient travailler pour le public, mais quand ils sont jeunes médecins, ils sortent de là, ils regardent le public. Non, non, t'as peu. Moi, je veux choisir mes horaires. Ils vont aller vers des cliniques privées où leur horaire, c'est eux qui vont l'affaire.
Exact.
Puis la clientèle va être là pendant qu'eux veulent travailler. Puis il y a peut-être quelque chose à apprendre du privé. Là. Ouais. J'ai senti M. Amiot peut-être hésitant un peu quand j'ai commencé à parler du privé. Mais plutôt que d'aller chercher des modèles ailleurs, en Suède, ils ont tel modèle. Ben, si ça fonctionne ici dans les cliniques privées, si on donne un horaire de qualité à nos infirmières, à nos médecins, on ne pourrait pas faire la même chose pour ce qui est de nos personnes qui travaillent dans le public? Inspirons-nous du privé. Ça peut peut-être améliorer les choses. Puis pour ce qui est de Christian Dubé, il y aurait tellement avantage à jaser avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Quand tu changes quelque chose qui touche un domaine, tu es aussi bien d'aller jaser avec ces gens-là qui
sont
eux autres, à tous les jours, ils ont les mains dans Poutine.
J'ai l'impression qu'ils sont divisés entre faire une semi-promotion du privé parce que peut-être ça se passe bien selon leurs observations. Puis d'un autre côté, de vouloir aller chercher certains aspects en fait pour l'appliquer au public. On entend encore une fois une question d'administration extrêmement lourde dans ce qu'ils font qui est déplorable et qui ne permet pas aux jeunes d'exercer. Finalement, si tu deviens médecin, c'est pas pour être secrétaire administrative après. Là. C'est que tu veux triper à faire ta profession, à exercer tes connaissances. Pour lesquels tu as étudié comme un fou, parce que, je veux dire, tu n'es pas dans la facilité en médecine.
C'est
pour
lesquels
tu as usé de ton cerveau jusqu'à temps que ça sente le chauffer. Je veux dire, les pompiers doivent peut-être arriver une couple de fois chez toi pendant tes études. Là. Puis ça, si tu n'es pas capable de l'exercer parce que tu fais de la paperasse majoritairement, ça doit être décourageant d'aller choisir la médecine familiale. On a plein de gens qui nous écrivent depuis tantôt, entre autres. Les médecins n'ont plus aucune crédibilité pour moi. J'ai vu les statistiques et au Québec, on a plus de médecins par habitant qu'en Ontario. Pourquoi il y a une pénurie ici, il n'y en a pas là-bas? Est-ce qu'ils travaillent moins? Est-ce que c'est un problème justement administratif? J'ai de la misère à croire tout ça. Quelqu'un d'autre qui dit « Je trouve ça difficile. Moi, ça fait 2 ans que j'attends pour mon genou. Puis ça pollue ma vie. Veux pas. » Quelqu'un d'autre qui dit « Je travaille dans le milieu de la santé. J'ai un gros problème que je vois au Québec. » C'est juste propre à nous, pratiquement sur la planète, même que c'est chacun des CIUS qui gèrent, en fait, selon leur volonté. Puis ça a été un autre commentaire qui est revenu aussi comme quoi le système hospitalier devrait changer sa vision parce que c'est un modèle qui est orchestré comme un modèle d'orchestre symphonique, là, où il faut un chef qui dirige tout, à plutôt un orchestre de jazz où chaque musicien jamme selon sa virtuosité, tu sais. Peut-être qu'il faudrait arrimer le tout. Quelqu'un d'autre qui dit... Le médecin de mon père refusait de faire un test de toucher prostatique pendant genre 8 ans parce que selon lui, les prises de sang, c'était assez et finalement, son cancer de prostate s'est rendu à sa vessie. Ça aurait pu être évité. Il y a tellement de commentaires quand vient le temps de parler de santé.
Ouais. Là. On a senti un petit peu la ballonne dégonflée là, quand j'ai demandé si c'était une légende urbaine que des gens perdaient leur médecin de famille. Ça m'est arrivé à moi. OK? Moi, j'avais 20 ans.
T'es un peu plus dans ta cour?
J'avais 20 ans, j'ai eu droit à un médecin de famille. On m'a averti que j'avais maintenant un médecin de famille. Fait que j'y étais une fois, je ne me rappelle pas pourquoi. Puis j'y ai pas retourné pendant une couple d'années. Puis là, on m'a appelé en me disant ben, Monsieur Marceau, si vous ne vous présentez pas à la clinique, ben on va juste tout simplement vous retirer de la liste. Puis là, j'ai dit ouais, mais je suis pas malade, madame. Ouais, mais si vous ne vous présentez pas à la clinique, on va être juste obligé de vous retirer de la liste. Fait que je suis pas allé, puis j'ai perdu mon médecin de famille.
Comme ça.
Puis c'est pas une légende, là. C'est arrivé à plusieurs personnes autour de moi. C'est que si vous êtes en santé, vous n'êtes pas payant pour le médecin. Il y a peut-être quelque chose de logique à tout ça, vous allez me dire. Là.
On devrait avoir une liste. Chacun
pense pour sa poche.
Stand-by.
Mais c'est comme si on était obligé, même si on n'était pas malade, d'aller passer notre carte d'assurance maladie à chaque année pour être sûr, certain, de ne pas perdre notre médecin de famille.
Finalement, tu fais perdre du temps, ça coûte de l'argent à la société. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une liste de stand-by en disant, bon, tel médecin, dans son ratio de patients, il y a X nombre de pourcentages qui viennent par année, capable d'en prendre un peu plus parce que lui, justement, il y a des... Il y a du fluide là, dans son patient. Il y a un Marceau qui ne va pas venir pendant 10 ans. Je pense que moi, je fais partie des personnes personnes les plus riches de la société. J'en ai une médecin de famille, puis elle m'a embarqué de la manière dont il discutait au début, là, comme « Ouais, OK, là, vu que t'es le dernier bébé de la famille, puis je suis tout le monde, t'es « OK, je t'embarque, mais tu sais... »
Mais t'es une fille.
Mais c'est là où j'allais. Ouais. Nous, nous sommes chanceuses dans notre malchance, dans la malchance d'avoir des suivis requis, ouais, réguliers pour notre santé, versus un homme, par exemple, il est plus jeune beaucoup.
Je suis sorti de l'hôpital à la naissance, ils m'ont dit « On te revoit pour la prostate à 50
ans. » C'est ça, à 50 ans. Puis il y a cette possibilité-là aussi qui est avantageuse. Puis l'autre, en fait, c'est quand tu as des maladies inquiétantes et importantes dans ta famille, puis il faut que tu sois suivi en conséquence.
Mais bref, on s'en sortira peut-être un jour, les amis. Gardons espoir. Tom?
Hey, mise à jour de dernière minute sur ce qui se passe côté de la polyvalente de Matane. Il y avait un confinement qui avait été... précisé dans le début de la matinée aux alentours de 9h15, puis la Sûreté du Québec a confirmé à 12h40 qu'on procédait au déconfinement graduel des élèves qui étaient barricadés dans leur classe depuis ce matin. Les élèves qui vont être escortés là, vers l'extérieur de l'école, qui vont être amenés par transport scolaire vers un lieu sécuritaire où les parents vont pouvoir venir les chercher. Donc, c'est ce qu'on a reçu comme information, puis on n'a toujours pas d'informations en lien exactement de ce qui s'est passé, là, pourquoi on est allé avec un confinement.
Là, pour que ce soit aussi long, puis là, finalement, l'escorte, puis là... les communications, j'ai hâte de voir ce qui s'est tramé.
Moi, je pense que ça peut être ben banal.
Ça peut être banal, oui.
Parce que
c'est long comme intervention, depuis 9h15 ce matin.
D'habitude, quand il y a des coups de feu ou il y a une intervention, un individu en crise à l'intérieur, on le sait très rapidement. Je pense que ça va être très, très banal comme situation.
Est-ce qu'il y a eu soupçon? Est-ce qu'il y a eu, justement, pas d'agression en tant que telle, mais il y a eu gestion psychologique de quelqu'un ou de quelque chose, parce que c'est depuis 9h15 ce matin.
418-971-1021, 418-971-1021, on revient. Marceau le midi.